Chemin de traverse, escapade à Belle-Île en mer, une émission de Pascal Laurière, un programme Maurice Clément Fèvre. Dans cette série des chemins de traverse, je vous emmène pour une escapade sur l'aînée des îles du Ponant. Bonjour et bienvenue pour une visite insolite de la plus grande des îles bretonnes, Belle-Île en mer. Ici commence un monde sauvage, âpre et doux, la pointe des Poulains. Vous rêviez de sensations fortes, de rochers noirs battus par les vagues et les vents, vous les aurez. Vous aviez envie de pelouses fleuries comme des jardins et d'une tranquillité à peine troublée par les cris des oiseaux de mer, vous les aurez aussi. Ici, il faut aimer les contrastes. Ici, même par temps calme, l'océan fait un bruit de tempête. Ici flotte l'âme de celle qui y trouve un décor à sa mesure, la grande tragédienne, Sarah Bernhardt. Nous nous trouvons donc à la pointe des Poulains, un site offrant entre autres de belles vues sur l'île de Groix, l'Orient et la baie de Quiberon. La pointe des Poulains, faite de schiste noir, offre à qui sait regarder et écouter deux visages. Ainsi, face au large, la côte sauvage représente la fureur de l'océan avec la houle et les embruns, alors que la côte en dedans, face au continent, représente plutôt la quiétude, le calme et une certaine sérénité. Vous l'avez compris, la fureur océane et sa quiétude se mélangent, se côtoient, en ce lieu où le minéral, sculpté par les assauts de la houle, des vagues et du vent, a pris des formes étranges, telles celles d'un sphinx, d'un cochon ou encore d'un chien. C'est de cet univers qu'est tombé sous le charme la tragédienne Sarah Bernhardt, dont Isabelle Boulard nous conte l'histoire.
Il faut savoir que Sarah Bernhardt a tout vendu en 1922, le dernier été où elle est venue. Mais le dernier été, elle était assez malade, elle a vécu 4 semaines alitée. Et donc sur le coup, elle a vraiment détesté son dernier été à Belle-Île et elle a voulu tout vendre. Et on était sur des propriétés qui ont été morcelées. Et dans les années 70, plus personne ne venait habiter ces bâtiments, en fait, que ce soit ici, ou les 5 parties du monde, ou la Lisiane. Et donc, c'est en 2000 quand le Conservatoire du Littoral a racheté tous ces bâtiments et a fait 5 années de travaux entre 2000 et 2005 pour visiter ce que vous trouvez.
Donc, tout le mobilier a été dispersé, vendu.
Voilà. Et ce que j'expliquais, les muséographes avaient deux options en rouvrant ce musée. C'était la première de racheter vraiment. Et on en reçoit hein, des barrettes de cheveux, des bottes qu'elle aurait pu porter, après faut vérifier tout ça. Cet aspect musée où on aurait tout mis sous cloche, et puis l'autre aspect qu'ils ont à mon avis bien choisi, c'est de faire vivre le lieu en fait à nouveau. Et c'est vrai que c'est un bâtiment qui a de l'âme, donc et beaucoup de gens sont émus. Ce bâtiment a été construit donc comme un bâtiment de guerre. Il y a une réserve d'eau en fait qui est prévue dessous. Là, vous voyez la plaque juste à l'entrée. Et en fait, il y avait la pompe qui est dans la cuisine qui permettait de faire remonter l'eau, en sachant que la salle de bain du coup était à l'étage, puisque l'été suivant, Sarah Bernhardt a fait construire à l'étage en fait, c'est un toit terrasse avec une hauteur en fait de crénelage qui permettait d'avoir des pièces supplémentaires qu'elle avait fait faire en bois. Donc les muséographes ne l'ont pas refait. Il y avait 4 chambres, une salle de bain et au milieu un solarium, toujours pour être à l'abri des regards. C'est pour ça qu'il y a l'escalier qui mène à l'étage.
Comment vous faites l'escalier ?
C'est fermé.
Parce que c'est fermé, il y a juste une terrasse, un toit terrasse en fait. Et c'est vrai qu'on peut se dire, c'est dommage, il doit avoir une belle vue de là-haut, mais non, puisqu'il y a 2 mètres de haut. Et en fait, il faut vraiment être sur un escabeau pour espérer voir quelque chose.
D'accord.
Voilà. C'est la toute petite cuisine.
Ah oui, alors là, il y a les garde-manger et la cuisine à droite. Ah oui, c'est vraiment la petite cuisine quand même. Hein. Enfin, avec tout ce qu'il faut.
Alors, je voulais juste rajouter à l'entrée, vous voyez le petit canapé. Ben, c'était le salon d'attente, forcément, quand on venait voir Sarah Bernhardt, on n'arrivait pas en étant accueilli et attendu. Il fallait surtout attendre la grande star et la grande diva pour. Voilà, c'est un peu le clin d'œil aussi. Et juste sur le mur, il y a une photo du Fortin. Alors, il y a un drapeau qui était hissé quand Sarah Bernhardt venait et arrivait à Belle-Île. Elle faisait hisser son drapeau en haut du fort pour dire qu'elle était là, la Dame Blanche était là. Alors on l'appelait la Dame Blanche parce que quand elle venait à Belle-Île, elle s'habillait toujours de sa grande robe et son chapeau blanc. Alors ça donne des anecdotes très drôles. Par exemple, bah, comme les gens essayaient de voir Sarah Bernhardt, et ben, elle demandait à une de ses amies de faire coucou à une fenêtre en ayant porté ce fameux chapeau. Puis comme ça, ils avaient l'impression d'avoir vu Sarah Bernhardt et elle, elle était tranquillement en train de se reposer, quoi. Ah, il fallait avoir des petites astuces déjà de stars de l'époque. Donc quand elle arrivait, elle faisait hisser ce drapeau et quand elle repartait, il y avait toujours un petit feu d'artifice. Alors il ne faut pas imaginer le grand feu d'artifice, quand mais même. Un petit feu d'artifice quand même pour célébrer le départ et la fin de l'été.
Constamment de la mise en scène.
Constamment, voilà. Dans le décor, mais c'est ce qui rend aussi attachant cette pointe des Poulains, c'est que les points de vue, bon, comme partout à Belle-Île, mais c'est vrai que quand on voit un banc, quand on va se promener tout à l'heure, chaque banc donne une lumière, un point de vue différent, et c'est vrai qu'on peut faire le parallèle avec la vie un peu théâtralisée de Sarah Bernhardt. Je vous invite à me suivre. On va passer par l'issue de pompiers, exceptionnellement, qu'on va ouvrir, et remonter au belvédère un peu plus haut, comme ça on aura un point de vue en hauteur, et on reparlera un peu des propriétés, parce qu'il y avait ce fort au tout départ, mais après, ça s'est agrandi, forcément. Allez.
Pour fermer la porte.
Les chemins de traverse, escapade à Belle-Île-en-Mer.
Là, nous quittons le fort de Sarah Bernhardt.
Si vous voulez commencer à monter, vous avez une petite courbe et on se rejoint au belvédère qui est juste là-haut. Je vous rejoins tout de suite. Normalement, quand on visite le fort, c'est dans le silence, et dans la... mais c'est agréable aussi d'avoir les explications, puis de revenir. Quelques petites marches ici qu'on devine. Là, à fleur de coteau. Ah oui. Encore des marches de descente. On a 46 hectares au final.
Ah oui, d'accord.
Donc c'était même au carrefour qui donne à Sauzon, là, juste avant de tourner sur Sauzon, il y a la villa Simone. C'était sa propriété au final.
D'accord.
On comprend pourquoi elle a dû le vendre par petits morceaux après. Personne ne pouvait se l'offrir.
Les petits belvédères où nous nous trouvons, devant nous, légèrement sur notre droite, le fort, juste à gauche, la maison des cinq parties du monde, et un peu plus haut, qui dépasse la végétation, la villa Lisiane. Et puis devant nous, qui émerge de l'océan, des rochers, dans le rocher Io, et l'étendue maritime.
Il y a un bâtiment supplémentaire, c'était l'atelier du peintre Clairin, donc son fameux ami qui habitait le Poulduc.
Et l'atelier, il a été détruit, il a été...
Alors c'était un atelier en bois, tout ce qui est bâtiment en bois. Qui n'a pas résisté.
Ça a disparu.
Ouais. Il y avait également sur le rond, derrière, il y a un petit plat, c'était un chenil. Parce que Sarah Bernhardt, ce qui est assez drôle, chaque fois que vous avez une photo d'elle, elle est toujours entourée de chiens.
Ouais.
Petit, grand, elle a toujours des animaux, surtout des chiens. Et alors... elle avait une manière très simple pour résoudre le problème des noms. On avait Hamlet, Hamlet 1, Hamlet 2, Hamlet 3, Hamlet 4. Je ne sais pas comment ils s'en sortaient, mais à mon avis, c'était Hamlet pour tout le monde. Donc après, ils se débrouillaient, les chiens. Donc l'atelier de Clairin, c'est ce qui nous manque, le chenil. Et puis, il y a le puits dont je vous parlais qui est caché derrière les tamaris. Mais voilà la première partie de la propriété. Je peux vous proposer de vous asseoir. On va parler de l'extension de la propriété.
Le fort de Sarah Bernhardt, devant nous, est vite devenu trop étroit pour recevoir famille et amis sans troubler les besoins d'indépendance de l'actrice. En 1897, elle fait construire la villa Lisiane pour ses invités et cette autre maison pour son fils et ses enfants. Elle appelle cette maison...
Les cinq parties du monde, parce que chacun avait voilà, la chambre Maurice en Australie, sa femme en Amérique. Et toujours dans les petites anecdotes assez drôles que Lisiane raconte, c'est que quand on disait que Maurice était en Amérique, c'est qu'il était dans la chambre de sa femme. Voilà, c'était une façon de dire à mot couvert quelques petites choses. Donc on avait ce bâtiment des cinq parties du monde, donc là c'était plus pour son fils, ses petites filles, les gouvernantes. Et puis très vite, les amis qui venaient, c'était un petit peu à l'étroit dans le fort, donc on a fait construire la villa Lisiane un peu plus haut. Alors le bas, là où nous sommes vus au tout départ, la billetterie, c'était en fait simplement l'endroit pour une citerne d'eau et la réserve. Et c'était vraiment à l'étage que les invités avaient la vue panoramique magnifique. Les villas de l'époque pour les vacances, une succession de chambres, toute la vie était à l'extérieur en fait. Donc là, on est sur la première partie, 1896 jusqu'en 1909. Et en 1898, quelques années avant, on a un monsieur qui rachète une propriété de l'autre côté de la route. C'est le baron Hussois de Meunier. Et elle est furieuse d'apprendre que quelqu'un va construire juste à côté de chez elle. Et ce baron fait construire un manoir en plus de 2 étages, très imposant. Alors elle a un petit canon, elle dit qu'elle veut le raser. Et puis en fait, ce monsieur, en 1908, va décéder. Et le syndicat d'initiative de l'époque parle de faire construire un hôtel de voyageurs. Et là, hors de question pour Sarah Bernard d'avoir des touristes qui logent juste à côté de chez elle. Donc elle rachète la propriété. Au passage, elle va laisser une dette qui ne sera jamais remboursée à un Bélilois. Et donc ce manoir, elle va l'habiter à partir de 1910, quoi, l'été suivant, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il a 14 chambres, donc il est beaucoup plus facile d'être tous ensemble dans ce manoir et de profiter de la vie, voilà, pendant les vacances en famille. Et puis surtout, il y a de l'eau aux 2 étages, il y a un petit groupe électrogène, donc plus de confort. Donc elle va faire un tennis là-bas, une grande mare à grenouilles. Alors pour les grenouilles, bon, on peut imaginer qu'elle en fait venir 10, 20, 50, non, elle en fait venir 2000. La moitié va mourir en route, en trajet. Donc voilà, les grenouilles de Belle-Île, vous savez d'où elles viennent. Et puis pour son ami le peintre Clairin, qui avait un petit atelier ici, l'année suivante, elle va faire construire une villa, la Villa Clairin, que l'on a encore. C'est une bâtisse blanche en tuiles, avec une belle verrière, et c'est la Villa Clairin. Cette propriété, elle est toujours présente et ça appartient à privé. Le manoir, en fait, a été malheureusement rasé en 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale. La seule trace vraiment des étés de Sarah Bernard, c'est ce fort où elle est venue quand même pendant quasiment 30 étés. Il y a juste la période justement de la guerre, la première guerre, 14-18, où elle n'est pas venue parce que il y avait pas, tous les bateaux étaient réquisitionnés forcément. Voilà, il y a juste cette période-là où elle ne sera pas venue, mais sinon, c'est assez... peut-être émouvant, mais de se dire qu'elle a eu ce coup de cœur, mais après elle est restée vraiment fidèle à Belle-Île et les liens qu'elle a créés aussi avec les Bélinois. Forcément, on ne vient pas pendant autant d'années sans créer des petits liens.
La Pointe des Poulains et la tragédienne Sarah Bernard, une histoire intimement liée.
Par rapport aux Bélinois, on peut en dire un petit peu de mots. Il y a eu l'hiver 1911 où il y a une grosse tempête. Et c'est un hiver très long où il n'y a pas eu de pêche possible, pas de sortie des pêcheurs. Il n'y a pas eu de récolte non plus au printemps parce que tout avait été brûlé par l'eau de mer qui avait arrosé les champs. L'argent et la nourriture commençaient à manquer. Et donc Sarah Bernard fait faire une représentation en faveur de Belle-Île et des Bélilois. Et donc toute la société Paris voilà, va jouer une matinée, un gala pour Belle-Île. Et l'argent sera donné aux Bélilois. Ça servira notamment à faire une boulangerie à Sauzon. Donc on a encore une plaque. Alors c'est plus une boulangerie maintenant à Sauzon, c'est une simple maison. Mais on a la plaque en donation de Sarah Bernard.
Et les gens l'ont pas trouvé un peu loufoque quand elle est arrivée ici?
Bah, loufoque, ça correspondait, je dirais, presque au personnage, hein, de tout ce qu'elle faisait, de toute façon.
Ils ne connaissaient pas le personnage.
Ils en entendaient parler dans la presse.
Ouais. D'accord, donc ça ne les a pas surpris plus que ça.
C'est le seul point peut-être qui a fait qu'il n'y a pas eu d'intimité entre les Bélilois. Et... Il y a eu des relations, mais c'est vrai que c'était quand même la grande star. Les Bélilois n'osaient pas aller voir quand même Sarah dans sa propriété, aller lui dire bonjour, quoi que ce soit. Ce n'est pas ce genre de lien qui s'est créé. Par contre, Sarah allait avec eux, du coup, à la messe les dimanches sur Belle-Île. C'était sa façon aussi de créer des liens avec les Bélilois. Il y a beaucoup de transmission orale sur Belle-Île entre les grands-mères qui racontent avoir croisé Sarah Bernard, voilà, une photo, une carte postale. Il y avait aussi, lorsque le conservatoire a restauré le musée, beaucoup d'émotions pour certaines personnes qui voyaient le fort complètement se délabrer et qui étaient très tristes aussi de toute cette page d'histoire de Belle-Île qui se fermait aussi en même temps.
Et la Villa Simone, un peu plus haut, c'est un lien avec Sarah Bernard?
Alors effectivement, la Villa Simone, ça fait partie de la propriété. Je me suis arrêtée au manoir, mais elle avait également, au niveau du parking, fait faire une ferme, une petite ferme avec vaches, quelques poulets, voilà. Elle s'imaginait aussi un peu fermière, hein, Sarah Bernard, quand elle venait ici. Et puis au croisement, effectivement, à 1 km un peu plus loin, on a la Villa Simone. Et là, c'était la villa qui servait aux gardiens de la propriété avec l'extension du manoir. C'était les terriens. Et on va encore un peu plus loin, elle avait une autre propriété sur Bangor, la ferme de Calastraine. Donc on a 46 hectares au final qu'elle a dû vendre en 1922.
Sur ces souvenirs et éléments de vie de Sarah Bernard à Belle-Île, nous refermons cet épisode. Suite de la découverte du site de la Pointe des Poulains et des moments de vie de Sarah Bernard lors de notre prochain rendez-vous. Au revoir et à très bientôt.